Prochainement, il sera impossible d'être surpris par les Alouettes de Montréal parce qu'on apprenait aujourd'hui en fin de journée que le président et chef de la direction des Alouettes, Patrick Boivin, n'est plus en fonction. La Ligue canadienne de football dit que David Goldstein, qui est de la Ligue, justement sera par intérim le nouveau président des Alouettes jusqu'à l'embauche d'un nouveau président. Pour en parler, Bruno Eppel est avec nous. Salut Bruno!
Salut Jérémy!
Qu'est-ce qui se passe, Bruno?
Ben, c'est le monde à l'envers. On fait les choses, tu sais... Patrick Boivin avait engagé son entraîneur-chef. Après ça, a fait 3 entrevues pour engager son GM. Ça n'a pas été fructueux. Ça m'aiguille un petit peu, par contre. Hein? Et là, on annonce que là, on n'a plus de président du côté des Alouettes. Fait qu'on se retrouve avec une équipe présentement qui a un entraîneur-chef, un groupe d'entraîneurs, mais qui n'a pas de directeur général puis qui n'a pas de président. Ça peut-tu presser là, qu'on annonce un propriétaire qui va régler tous ces problèmes-là? Ça fait tout simplement pas de sens présentement. Ce qui se passe, on fait tout à l'envers.
Bruno, qu'est-ce qu'il faut lire là-dedans? Est-ce qu'il faut lire que des nouveaux propriétaires s'amènent, que Patrick Boivin n'était pas l'homme de la situation? Qu'est-ce qu'il faut lire là-dedans?
Bien, c'est évident qu'un nouveau groupe qui va arriver va vouloir engager son propre président. Ça, c'est officiel. Ce que ça nous en indique probablement aussi, c'est que Claridge, dont le président est le père de Patrick, ne sont probablement plus dans le portrait, ou en tout cas, ça serait surprenant de voir une annonce où on va annoncer Claridge et 2 semaines après, mettons, avoir annoncé qu'on a congédié Patrick Boivin. Fait que ça me dit peut-être qu'ils sont plus dans le portrait. Puis l'autre chose que ça me dit, c'est qu'on n'a peut-être pas aimé la façon dont les entrevues pour la recherche du directeur général, parce qu'on s'en rappelle, là, il y a beaucoup de directeurs généraux, ben, de futurs directeurs généraux qui ont été rencontrés, les 3 ont refusé l'offre des Alouettes, puis le dernier a dit « trop de drapeaux rouges ». Donc, est-ce que les entrevues ont été conduites par Patrick comme la Ligue canadienne le voulait? Peut-être que ça, c'est une chose qu'on peut regarder aussi. En bout de ligne, c'est faut que ça se règle. Il faut qu'on ait un propriétaire qui va engager son président, qui va engager un directeur général, puis qu'on ait une organisation qui se tienne, parce que on a beau avoir eu des succès dans la saison qui vient de se terminer. Si on veut en avoir dans la saison qui s'en vient, ben il faut qu'on ait un président, il faut qu'on ait un propriétaire, il faut qu'on ait du monde qui sont en train de recruter puis de chercher des nouveaux joueurs pour s'améliorer. Parce que sinon, ça pourrait être une saison de misère la saison prochaine.
Mais Bruno, rappelle-moi, tu m'as dit, Wally Buono, par contre, est mandaté par la Ligue pour chapeauter un peu tout ça, pour être une oreille attentive dans l'organisation des Alouettes.
Exact. Donc, lui, on sait qu'il est consultant, mais tu sais, pas plus longtemps qu'il y a quelques mois, il était à la retraite. Tu sais, il fait ça de chez lui, il fait pas ça d'ici, il est pas installé à Montréal, à ce que je sache. Donc, tu sais, tu peux pas, là, mener une organisation. Si Wally Buono est où je pense qu'il doit être à Vancouver, mener une organisation comme une organisation de la canadienne de Vancouver, ça se fait tout simplement pas. Faut qu'on règle ça, là. Ça a assez duré. Est-ce que, là, justement, le congédiement de Patrick Boivin nous indique pas qu'on va annoncer très prochainement un groupe de propriétaires qui va peut-être en profiter pour annoncer son président. On verra bien, mais ça pourrait ressembler à ça.
OK. Donc, ce qu'on comprend également, c'est que s'il y a des nouveaux propriétaires qui arrivent, peut-être qu'eux ont dit, bon, ben l'homme qui est là, c'est pas notre homme. On est d'accord avec tout le groupe d'entraîneurs, on est d'accord avec le coach, mais le gars qui est là à la présidence, c'est pas notre gars.
Ouais, puis ça reste des suppositions, mais on est obligé de faire des suppositions parce que on est dans une chose qui s'en vient carrément une farce, c'est-à-dire le trouver des nouveaux propriétaires pour les Alouettes. Là, ça fait un an que ça dure, puis c'est rendu vraiment loufoque comment c'est géré.
Et loufoque, et j'espère que Randy Ambrosie, commissaire de la Ligue canadienne de football, se fera un moment donné un petit peu pointer du doigt de la part des autres formations de la Ligue pour dire « Excuse-moi, mais le dossier a été mal conduit de la part du commissaire ».
Ben, je peux dire en tout cas que c'est déjà commencé au niveau des médias. Là. Randy Ambrosie, dans ce dossier-là, a été pointé du doigt très souvent pour ses maladresses.
Aïe, aïe, aïe. Quelle aventure quand même pour les Alouettes de Montréal. Donc, je rappelle, Patrick Boivin n'est plus le président des Alouettes de Montréal. C'est un membre de la Ligue canadienne de football, David Goldstein, qui servira par intérim de président des Alouettes jusqu'à l'embauche d'un nouveau président. Donc, on vous rappelle que les Alouettes sont toujours sans propriétaire et maintenant sans président. Quand ça va bien, ça va très, très bien. Bon, Bruno, parlons des gros bidous, parlons de la NFL parce que c'est le wild card en fin de semaine. Et là, samedi, écoute, ça doit faire juste après 2 ans après Mathusalem. Je pense que la dernière fois que les Bills ont eu accès au match éliminatoire. Les Bills vont affronter les Texans de Houston. Ça se passe samedi à compter de 16h35.
Oui, on n'a pas gagné depuis. On n'a pas gagné un match éliminatoire depuis très longtemps du côté des Bills. Puis on affronte une équipe des Texans qui. Par contre, il faut le dire, les Texans sont pas sur leur meilleure séquence pendant que les Bills, eux, ont un jeune corps qui arrive. On a une bonne défense, une des meilleures de la Ligue. J'ai bien hâte de voir. Moi, je pense que la clé dans ce match-là pour les Bills va être la prestation de Josh Allen, qui est leur jeune corps arrière. Et si on est capable d'être plus précis, parce qu'on était un des corps les moins précis de la Ligue dans une équipe qui, justement, a fait plein de belles choses toute l'année du côté des Bills, mais notre corps est imprécis, il faut qu'il le soit contre les Texans, parce que de l'autre côté, t'as un gars qui s'appelle Deshaun Watson, puis lui, c'est un spécialiste des grands moments. Plus le moment est important depuis le début de sa jeune carrière, plus il a livré de grandes performances, puis un match éliminatoire, ben moi j'appelle ça un match très important. Fait que beau duel de jeunes corps, ça risque d'être très spectaculaire ce match-là parce qu'on a des carrières qui sont capables de passer, mais surtout capables de courir avec le ballon.
Donc, si je me mets du côté des Texans, ce que je veux faire, c'est de mettre de la pression sur le carrière des Bills de Buffalo.
Ouais, tu veux l'empêcher de courir, ça c'est sûr. Tu lui enlèves son arme, pas principale, mais quand même, tu veux forcer Josh Allen à te battre avec la précision de ses passes parce que c'est ce dont il a eu de la difficulté dans la saison régulière. De l'autre côté, si ça affronte Deshaun Watson, ben lui, tout simplement, tu veux y enlever DeAndre Hopkins parce que là, si tu lui enlèves sa arme principale, on sait que Fuller est vraiment pas sûr de jouer le match, c'est le receveur numéro 2. Pas sûr de jouer le match. S'il le joue, il va le jouer avec une blessure à l'aine. Donc, ça ne devrait pas être à 100%. Fait que mission numéro 1 du côté de la défense des Bills, c'est évidemment d'enlever DeAndre Hopkins à Deshaun Watson.
Maintenant, en soirée à 20h15, toujours samedi, les Titans du Tennessee vont affronter les Patriots qui, eux, voulaient avoir un bye week. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à battre les Dolphins. Comment tu vois ce duel?
Ben, les Titans sont peut-être une des équipes que les Pats ne voudraient pas voir arriver parce que c'est une équipe très dynamique. C'est une équipe qui est capable de réaliser beaucoup de gros jeux, qui est très physique en attaque. On est capable de courir avec le ballon. On est capable d'aller chercher des verges après l'attraper. On a été une des meilleures attaques de la Ligue dans la deuxième moitié de saison. Puis là, tu affrontes les Pats qui, eux, offensivement, ont des énormes problèmes. J'ai bien hâte de voir s'il en reste une à Tom Brady dans son cahier, puis pour développer des stratégies pour être plus productif en attaque, parce que moi, je suis convaincu que les Titans vont être capables de l'être. Fait que, mauvaise nouvelle, on a une équipe, en plus, qui a une empreinte, beaucoup des Patriots, beaucoup d'anciens joueurs des Patriots. L'entraîneur-chef, Vrabel, est un ancien Pats. Donc, on connaît un petit peu les stratégies qu'on va voir du côté des Patriots. Moi, je pense que ça pourrait être une surprise et les Titans pourraient gagner ce match-là.
OK. S'il y a une défaite des Patriots, est-ce que ça sera le début du démantèlement de la dynastie qu'on connaît des Patriots de la Nouvelle-Angleterre?
Bien, on voit déjà que c'est pas la meilleure année des Patriots. Hein. Ils sont en train de jouer dans le wild card. Ça fait des années qu'ils n'ont pas fait ça. Je pense que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu à jouer dans un wild card. Donc, on voit que c'est une équipe qui est en perte de vitesse. C'est une équipe qui a un corps vieillissant, qui a de moins d'armes, qui n'ont jamais eu en attaque. Et puis là, ils s'amènent dans les éliminatoires. Fait que moi, c'est pour ça que je me dis, je vois pas les Pats se rendre au Super Bowl cette année. C'est de loin une des meilleures équipes là, quand on regarde le carré d'as et tout ce qui se passe dans ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Même si les Pats réussissaient à battre les Titans, je pense que ça va se terminer pour eux la semaine prochaine, peu importe qui ils vont affronter.
Bon, ben ça se passait samedi. Maintenant, dimanche, à compter de 13h05, les Vikings vont affronter les Saints, qui sont quand même dans une bonne période avec une séquence de 3 victoires de suite.
Oui, les Saints, pour moi, sont l'équipe vraiment la plus dangereuse de la Ligue. Les Vikings, par contre, il faut le mentionner, au niveau offensif, vont avoir leur porteur de ballon, numéro 1, numéro 2, vont avoir Adam Thielen en santé. C'est la première fois où Kirk Cousins va avoir vraiment tous ses effectifs en attaque. La mauvaise nouvelle pour les Vikings, c'est qu'il va leur manquer 2 demi-défensifs. Et quand tu affrontes les Saints, Michael Thomas et Alvin Kamara, ben, tu veux avoir tes effectifs en défense. Et ça pourrait venir jouer gros dans la balance. En plus, on doit voyager. On s'en vient en Nouvelle-Orléans, un endroit où c'est très difficile de gagner, où les Saints, dans les 13 dernières, les 7 derniers matchs qu'ils ont joué là, en éliminatoire, en ont gagné 6. Pour moi, c'est une équipe qui est plus complète, celle des Saints. Une défense, 2 bonnes défenses, mais je pense qu'on a un petit humph de plus en attaque qui s'appelle Drew Brees. Et dans un duel qui, je pense, va se décider par le meilleur des deux quarts, ben, je vais y aller avec Drew Brees et les Saints.
Et dans le dernier duel de ce wild card, c'est dimanche à compter de 16h40. Les Seahawks de Seattle et leurs problèmes à la ligne de 1 vont affronter les Eagles de Philadelphie.
Oui, absolument. J'ai bien hâte de voir si on se ramasse à la ligne de 1 en fin du match. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, juste pas prendre de pénalité, donner le ballon à Marshawn Lynch puis le laisser rentrer dans la zone des buts, ce qu'on a semblé être incapable de faire dans les dernières années. Mais oui, deux équipes déclopées. Hein. On a beaucoup de joueurs blessés du côté des Eagles. C'est la même chose du côté des Seahawks. C'est pas pour rien qu'on parle de Marshawn Lynch parce qu'on a perdu nos porteurs de ballon. On a des blessures sur la ligne offensive aussi du côté des Seahawks. Donc, c'est vraiment un match où j'ai hâte de voir, moi, surtout, comment Carson Wentz va se débrouiller, parce que lui, c'est son premier match éliminatoire. Les Eagles ont participé aux éliminatoires à deux des trois saisons où Carson Wentz était là, mais a toujours été blessé, c'était Nick Foles qui était là. Et là, Carson Wentz, lui, qui vient d'être nommé le joueur du mois dans la conférence nationale, il y a eu un mois de décembre de feu malgré tous les blessures. Ben, s'il en sort une grosse à Philadelphie, je pense que les Seahawks sont mûrs pour se faire battre face aux Eagles de Philadelphie.
C'est quand même impressionnant parce que tu dis que les Eagles pourraient battre les Seahawks. Les Seahawks, dans la saison régulière, c'est 11 victoires, 5 défaites. Les Eagles, c'est 9-7. Tu pourrais penser logiquement que les Seahawks pourraient manger les Eagles de Philadelphie facile.
Oui, mais les Seahawks ont gagné plusieurs de leurs matchs de façon très serrée. Je pense que leur différentiel de points pour, points contre, c'est plus 7. On a réussi à gagner 11 matchs. Donc, on n'a pas dominé vraiment personne. Et on a connu une mauvaise fin de saison. On a eu 2 victoires, 3 défaites à nos 5 derniers matchs. C'est une équipe qui a marqué 14 points et 17 points contre les Cards de l'Arizona et les Rams en fin de saison. On a perdu face aux Niners. Je comprends qu'on aurait pu gagner le match face à une très bonne équipe, mais la réalité, c'est qu'on a perdu ce match-là. Donc, les Seahawks, présentement, ne jouent pas leur meilleur football, alors que les Eagles, eux, sont sur une très bonne séquence de 4 victoires consécutives.
Exactement. Puis les Seahawks, c'est 2 défaites de façon consécutive. Mais Bruno Épais, c'est tout le temps qu'on a. Ben, écoute, les Alouettes ont trouvé le moyen de nous pimenter ce week-end d'activité du côté de la NFL en congédiant leur président. Ah, Bruno, pour toi, pour un ancien Alouette, je te souhaite des proprios, puis je souhaite cette équipe-là, soit ça marche un peu mieux, parce que, mon Dieu, que c'est croche, ça n'a juste pas de bon sens.
Oui, parce que c'est plate, parce qu'on avait commencé à parler positivement, mais là, depuis que la saison s'est terminée, on est obligé de se tourner vers les opérations au football, et c'est pas aussi jojo que sur le terrain.
Non, clairement. Hey Bruno, je te dis un gros merci d'avoir été avec nous.
Salut, bye-bye.
Voilà, on s'arrête quelques instants au retour. Résumé complet de ce qui se passe présentement dans le monde du sport.